Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, l'histoire d'aujourd'hui. L'arbitre suivant, nous allons présenter la mise au point et ensuite le magazine culturel. L'arbitre suivant est l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter, comme d'habitude, des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Intensifier la croissance économique dans la province de Bengkulu. Le président Joko Widodo se concentre sur le secteur de connectivité. Grâce au grand potentiel des ressources, le président Joko Widodo espère que Riau soutient l'économie nationale. L'Indonésie et J33 appellent à la souveraineté et la sécurité alimentaire. L'Indonésie et l'Allemagne ont signé un protocole d'accord de coopération maritime. La campagne noire n'a pas affecté la demande d'huile de palme de l'Indonésie. Jombang, l'hôte des camps de jeunes interconventionnels de l'ASEAN. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo est optimiste. L'économie de la province de Bengkulu va croître dans la période à venir si le gouvernement central et local se concentrer sur le développement pour surmonter le problème de la connectivité dans la province. Dans son discours à la réunion limitée sur l'évaluation de la mise en œuvre des projets stratégiques nationaux et le programme prioritaire dans la province de Bengkulu au bureau présidentiel mercredi, le président Joko Widodo a souligné le nombre élevé de villages isolés dans la province de Bengkulu qui atteint 48,7%. Selon le président, la connectivité accrue dans la province de Bengkulu sera en mesure de déplacer le centre de la croissance économique dans la région, ainsi que d'encourager l'augmentation du développement économique dans d'autres régions dans l'île de Sumatra. Je suis sûr qu'à l'avenir, l'économie à Bengkulu sera en mesure de se déplacer plus vite et plus élevé si nous avons pu résoudre le problème de connectivité. Nous avons obtenu les informations qu'il y avait encore d'environ 48,7%, soit environ 653 villages qui étaient isolés dans la province de Bengkulu. De même, la connectivité qui relie la province de Bengkulu avec d'autres provinces est encore très limitée. Ainsi, je demande que la collectivité doive être une préoccupation et devait être améliorée entre les régions dans la province de Bengkulu avec d'autres provinces. D'ailleurs, le développement des centres de croissance économique dans divers endroits de l'île de Sumatra aurait également un impact positif sur l'économie dans la province de Bengkulu. La province de Bengkulu, au cours du premier trimestre 2017, la croissance économique est plus élevée que le taux de croissance national, à savoir 5,21%. Toutefois, selon le président, le taux de croissance devrait être en mesure d'avoir un impact direct sur la réduction de la pauvreté dans la province de Bengkulu, qui atteint actuellement 17,03% de la population totale. En outre, le président se concentre également sur les aspects de développement équitable dans la province de Bengkulu. Selon lui, la croissance économique de la province doit orienter également aux efforts pour réduire le nombre des inégalités sociales. Le président Joko Widodo espère que la croissance économique dans la province de Riau peut soutenir la croissance de l'économie nationale. Il a été annoncé par le président Joko Widodo dans la réunion limitée du cabinet sur l'évaluation de la mise en œuvre des projets stratégiques nationaux et le programme prioritaire dans la province de Riau au bureau présidentiel mercredi. Le secrétaire du cabinet, M. Pramono Anung, après avoir assisté à la réunion, a déclaré que Riau était l'une des provinces en Indonésie avec un potentiel élevé de ressources naturelles. Selon lui, ce potentiel se développe toujours en ligne avec l'expansion des autres potentiels dans cette province, de sorte cela fait Riau comme l'une des provinces principales soutenant l'économie nationale. La province de Riau est une région très riche et maintenant il y a de plus le sagoutier et la noix de coco qui devient l'un des produits excellents, outre d'autres produits qui sont certainement liés aux ressources naturelles. À cette fin, le président a demandé que Riau puisse particulièrement aider la croissance économique au niveau national. Selon Pramono Anung, la croissance économique de Riau en 2016 a eu tendance à diminuer. La baisse de la croissance économique de Riau a été causée par la baisse des prix du pétrole dans le monde, qui devient l'une des ressources énergétiques excellentes de cette province. La réunion limitée du cabinet, auquel a été assisté par le vice-président Youssouf Kalla, un certain nombre des ministres du cabinet de travail, et le gouverneur de Riau et ses autres fonctionnaires. L'Indonésie et le groupe de J33 ont appelé à la souveraineté et la sécurité alimentaire dans l'atelier de l'Organisation mondiale du commerce tenu à Genève le 31 mai 2017. Dans un communiqué de presse par le représentant permanent de l'Indonésie à Genève jeudi, a déclaré que l'atelier organisé par J33, qui était une coalition de 47 pays en développement des membres de l'OMC et a été ouverte par le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo. Le représentant permanent de l'Indonésie à Genève, l'ambassadeur Hassan Kleib, a déclaré que le but de l'atelier était d'ouvrir la voie des membres de l'OMC sur l'importance de l'instrument de stock public à des fins de sécurité alimentaire et le mécanisme de sauvegarde spécial comme un filet de sécurité pour protéger les intérêts des petits agriculteurs et les pauvres dans les pays en développement. Et afin de réaliser la sécurité alimentaire, la sécurité des moyens de subsistance et le développement rural. J33, dirigé par l'Indonésie, est un groupe luttant pour la reconnaissance des droits des pays en développement pour être en mesure de fournir un soutien aux petits agriculteurs et les pauvres dans chaque pays. Le gouvernement indonésien estime jusqu'à présent le niveau de bien-être des petits agriculteurs et les pauvres dans des pays en développement sont de plus en plus marginalisés parce qu'il a affecté le niveau élevé de la volatilité des prix des produits agricoles mondiaux en raison de l'ouverture des marchés. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie et l'Allemagne ont signé un protocole d'accord pour la coopération dans le domaine du transport maritime. Ce protocole d'accord a été signé par le ministre indonésien de coordination des affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, et le vice-premier ministre de l'Allemagne, qui sert également le ministre allemand des affaires étrangères, Sigmar Gabriel, au bureau du ministère allemand des affaires étrangères, mercredi à Berlin. Dans une déclaration écrite reçue par Antara jeudi, il a déclaré que la signature du protocole d'accord était une mise en œuvre de la déclaration conjointe entre l'Indonésie et l'Allemagne dans la coopération globale tenue à Jakarta le 12 juillet 2012. Quelques points qui sont inclus à l'ordre du jour de la coopération sont entre autres la coopération stratégique maritime, la sécurité et la sauvetage de la mer ainsi que l'investissement des infrastructures maritimes. En plus de signer un protocole d'accord de la coopération dans le domaine maritime, le ministre Luhut avait aussi dialogué avec le vice-premier ministre. Cette réunion est prévue à suivre par les deux visites réciproques du vice-premier ministre allemand Sigmar Gabriel et la visite du ministre allemand des Transports et des Infrastructures numériques Alexander Dubrin. L'Association des entrepreneurs de l'huile de palme indonésienne, ou GAPKI, assure l'Indonésie continuera d'être le plus grand producteur de l'huile de palme dans le monde. Le président de GAPKI, M. Joko Supriyono, a déclaré jeudi que toute la campagne noire à l'intérieur et à l'extérieur du pays n'a aucun effet sur la demande mondiale de l'huile de palme en Indonésie. Il a souligné que la demande mondiale augmentera. En avril 2017, la demande d'huile de palme ou CPO et ses dérivés de l'Europe a augmenté d'environ 8%. En mars 2017, environ 446,92 000 tonnes, un mois plus tard est devenu 482,95 000 tonnes. Les demandes d'autres pays augmentent également, à l'exception de la Chine, qui sont en baisse en raison du programme d'élevage, en sorte qu'on importe beaucoup de soja pour l'alimentation animale et obtenir l'huile du processus de broyage de soja. GAPKI est engagé à soutenir le programme d'amélioration de la productivité des agriculteurs pour encourager les membres à élargir le partenariat de coopération entre les entreprises et les plantations du peuple. Pour marquer 50 ans de l'ASEAN comme une association de 10 pays d'Asie du Sud-Est en 2017, l'Indonésie a commencé avec différentes séries de programmes. L'un entre eux est le projet de tenir camp de jeunes interreligieux par le ministre des Affaires étrangères, à laquelle participeront des représentants de 10 États membres et les pays des partenaires de dialogue de l'ASEAN, qui a eu lieu à Jombang, dans la province de Java-Est. Le directeur adjoint pour la coopération de développement social de la Direction générale de la coopération ASEAN, le ministère des Affaires étrangères, M. Isman Pasha, à Jombang, a déclaré que la valeur de tolérance élevée interreligieuse et l'harmonie de la société de Jombang devient la raison principale du choix de Jombang comme lors de la CAM de jeunes interconventionnels ASEAN qui aura lieu en octobre 2017. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel an de programme écoutez-vous la voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis Longten, bonsoir. Voici donc le commentaire et pour le titre, la démission des États-Unis de l'accord du climat de Paris 2015. L'accord international sur les efforts visant à maintenir le climat mondial n'obtient plus le soutien des États-Unis. Le président américain a annoncé officiellement que son pays démissionne de l'accord sur le climat signé à Paris en 2015 par 187 pays. L'accord de Paris est le premier accord mondial sur le climat globalement dans le but de maintenir la moyenne hausse de la température mondiale de moins de 2 degrés Celsius. Pour atteindre cet objectif, de nombreux pays, y compris la Chine et les États-Unis, réduisent les émissions de carbone résultant de la pollution industrielle qui utilise du carburant de charbon. Les États-Unis sont le deuxième plus grand pays produisant les émissions de carbone de charbon après la Chine. L'engagement des États-Unis à la réduction des émissions de carbone est réalisé avec la signature de l'accord de Paris par le président Barack Obama en 2016. La décision de Donald Trump de démissionner de l'accord de Paris est parce qu'il veut réaliser sa promesse lorsqu'il faisait campagne pour devenir président. À ce moment-là, il a affirmé son intention de supprimer cet accord qu'il appelait contraire aux intérêts nationaux des États-Unis. Il a également promis de continuer à renforcer l'industrie du charbon. Trump veut encourager la production de charbon pour créer plus d'emplois pour ses citoyens. Cette action néglige l'accord visant à réduire les émissions de carbone du monde. Serge Tor, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous présenter maintenant le programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix d'Indonésie de l'édition le 2 juin. On va commencer le 2 juin 1942, l'Allemagne a occupé la Libye. Le 2 juin 1942, le maréchal Erwin Rommel, le commandant de l'opération anti-stratège de l'attaque de masse de l'Allemagne, a commencé ses opérations en Afrique du Nord. Auparavant, les troupes britanniques avaient pris d'assaut la région libyenne et ont réussi à l'arracher des mains des troupes nazies allemandes. Cependant, grâce à l'opération qui a duré un mois, les Allemands ne sont pas seulement en mesure de prendre en charge la Libye, ils ont même réussi à conquérir d'autres régions autour de la Libye comme Al-Ilma et la ville portuaire d'Alexandrie en Égypte. La victoire de l'armée allemande est très inquiétante de constater que les forces alliées prédisent pourraient occuper le canal de Suez. Pour cette raison, le Royaume-Uni exerce toutes ses forces dans la région et enfin, en novembre de cette année, l'armée de la Grande-Bretagne a repoussé les troupes allemandes. En chance, le 2 juin 1946, l'abolition de la monarchie italienne. Les Italiens sont invités à choisir par référendum entre la monarchie et la République. Cette dernière l'emporte avec 12,7 millions de suffrages contre 10,7 millions. Le dernier roi d'Italie, Umberto II, s'exile au Portugal. Le nouvel hymne national issu du Risorgimento, la période du 19e siècle où s'élabora l'unification italienne, est adopté et l'Assemblée constituante élit provisoirement en chef d'État Enrico de Nicola. En 1947, sera adoptée une constitution qui s'attachera à éviter le retour à la dictature. On termine le 2 juin 1967 les protestations de Berlin-Ouest contre l'arrivée du Shah d'Iran se transforme en une émeute. Benno Ohnesorg a été tué par des policiers. Benno Ohnesorg était un étudiant allemand qui a été tué par un agent de police le 2 juin 1967. Au cours d'une manifestation à Berlin contre la visite du Shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi à l'Allemagne. Sa mort a entraîné la création du groupe radical d'un mouvement de juin. Un monument à la mémoire de la mort de Ohnesorg a été créé à Berlin et dans sa ville natale de Hanovre, un pont qui enjambe la rivière Ilm, nommé en hommage à lui. Chers auditeurs, c'était noté aujourd'hui dans l'histoire, l'édition de 2 juin. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, la visite du ministre des Affaires étrangères du Luxembourg en Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a reçu la visite du ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Jean Asselborn, au ministère des Affaires étrangères, Jakarta, mardi le 30 mai 2017. Cette visite a été utilisée comme lieu de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays, en particulier sur la coopération dans les secteurs bancaires, financiers et de l'investissement. La ministre Retno Marsudi, après avoir effectué une rencontre avec son homologue du Luxembourg, a déclaré que les deux pays étaient entrés dans la phase de relations bilatérales assez étroites depuis l'an 2015. Madame Retno Marsudi a dit « La visite et la réunion actuelle démontrent l'engagement des deux pays de renforcer les relations bilatérales. Cela a commencé quand le vice-président indonésien Yusuf Kalla a ouvert la discussion de la coopération dans le domaine financier avec le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel lors de la commémoration du 70e anniversaire de l'Assemblée générale des Nations Unies le 29 septembre 2015. Depuis ce moment, l'investissement luxembourgeois en Indonésie continue d'augmenter. Elle a ajouté qu'elle était heureuse de savoir qu'il y a l'augmentation de la valeur commerciale de 72% et l'augmentation de la valeur d'investissement de 170% pour la période 2015 à 2016. Par conséquent, l'Indonésie organisera Indonesian Investment Roadshow en Europe, y compris le Luxembourg en 2018. Le Luxembourg enverra également une mission commerciale en Indonésie en 2017 pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Lors de la réunion, l'Indonésie a également exprimé sa préoccupation au sujet de la campagne négative et de la discrimination sur le diplôme indonésien. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté des possibilités de coopération dans le domaine de la coopération et du satellite. Pendant ce temps, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a déclaré qu'il continuera d'aider la position de négociation d'Indonésie dans le secteur financier, bancaire et de l'investissement avec les États membres de l'Union européenne. L'expertise du Luxembourg dans le secteur financier, bancaire et les investissements pourrait bénéficier à l'Indonésie. À l'avenir, il va discuter également le mécanisme bureaucratique pour être en mesure de rendre facile et d'accroître les investissements du Luxembourg en Indonésie.
En plus des domaines d'investissement et financier, le Luxembourg est également cohérent d'aider dans le développement du processus de développement du réseau de télécommunications en Indonésie. Selon Asenborn, au cours des dernières années, il continuera à aider le développement des réseaux de télécommunications et la connectivité dans toute l'Indonésie. Non seulement pour aider les gens, le réseau de cette connectivité est également en mesure d'aider les autorités indonésiennes pour contrôler la région frontalière. À la même occasion, le ministre Asselborn a condamné les attentats suicides au terminal Kampung Melayu la semaine dernière qui ont conduit à des morts et des blessures. Selon lui, le terrorisme et l'extrémisme détruisent la paix et la stabilité. Le terrorisme doit être combattu ensemble. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le président indonésien Joko Widodo est optimiste. L'économie de la province de Bengkulu va croître dans la période à venir si le gouvernement central et local se concentre sur le développement pour surmonter le problème de la connectivité dans la province. Dans son discours à la réunion limitée sur l'évaluation de la mise en œuvre des projets stratégiques nationaux et le programme prioritaire dans la province de Bengkulu au bureau présidentiel mercredi, le président Joko Widodo a souligné le nombre élevé de villages isolés dans la province de Bengkulu qui atteint 48,7%. Selon le président, la connectivité accrue dans la province de Bengkulu sera en mesure de déplacer le centre de la croissance économique dans la région, ainsi que d'encourager l'augmentation du développement économique dans d'autres régions dans l'île de Sumatra. Je suis sûr qu'à l'avenir, l'économie à Bengkulu sera en mesure de se déplacer plus vite et plus élevé si nous avons pu résoudre le problème de connectivité. Nous avons obtenu les informations qu'il y avait encore d'environ 48,7%, soit environ 653 villages qui étaient isolés dans la province de Bengkulu. De même, la connectivité qui relie la province de Bengkulu avec d'autres provinces est encore très limitée. Ainsi, je demande que la collectivité doive être une préoccupation et devait être améliorée entre les régions dans la province de Bengkulu avec d'autres provinces. D'ailleurs, le développement des centres de croissance économique dans divers endroits de l'île de Sumatra aurait également un impact positif sur l'économie dans la province de Bengkulu. La province de Bengkulu, au cours du premier trimestre 2017, la croissance économique est plus élevée que le taux de croissance national, à savoir 5,21%. Toutefois, selon le président, le taux de croissance devrait être en mesure d'avoir un impact direct sur la réduction de la pauvreté dans la province de Bengkulu, qui atteint actuellement 17,03% de la population totale. En outre, le président se concentre également sur les aspects de développement équitable dans la province de Bengkulu. Selon lui, la croissance économique de la province doit orienter également aux efforts pour réduire le nombre d'inégalités sociales. Le président Joko Widodo espère que la croissance économique dans la province de Riau peut soutenir la croissance de l'économie nationale. Il a été annoncé par le président Joko Widodo dans la réunion limitée du cabinet sur l'évaluation de la mise en œuvre des projets stratégiques nationaux et le programme prioritaire dans la province de Riau au bureau présidentiel mercredi. Le secrétaire du cabinet, M. Pramono Anung, après avoir assisté à la réunion, a déclaré que Riau était l'une des provinces en Indonésie avec un potentiel élevé de ressources naturelles. Selon lui, ce potentiel se développe toujours en ligne avec l'expansion des autres potentiels dans cette province, de sorte que cela fait Riau comme l'une des provinces principales soutenant l'économie nationale. La province de Riau est une région très riche et maintenant il y a de plus le sagoutier et la noix de coco qui devient l'un des produits excellents outre d'autres produits qui sont certainement liés aux ressources naturelles. À cette fin, le président a demandé que Riau puisse particulièrement aider la croissance économique au niveau national. Selon Pramono Anung, la croissance économique de Riau en 2016 a eu tendance à diminuer. La baisse de la croissance économique de Riau a été causée par la baisse des prix du pétrole dans le monde, qui devient l'une des ressources énergétiques excellentes de cette province. La réunion limitée du cabinet, auquel a été assisté par le vice-président Youssouf Kalla, un certain nombre de ministres du cabinet de travail et le gouverneur de Riau et ses autres fonctionnaires. L'Indonésie et le groupe de J33 ont appelé à la souveraineté et la sécurité alimentaire dans l'atelier de l'Organisation mondiale du commerce tenu à Genève le 31 mai 2017. Dans un communiqué de presse par le représentant permanent de l'Indonésie à Genève jeudi, a déclaré que l'atelier organisé par J33, qui était une coalition de 47 pays en développement des membres de l'OMC, et a été ouverte par le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo. Le représentant permanent de l'Indonésie à Genève, l'ambassadeur Hassan Kleib, a déclaré que le but de l'atelier était d'ouvrir la voie des membres de l'OMC sur l'importance de l'instrument de stock public à des fins de sécurité alimentaire et le mécanisme de sauvegarde spécial comme un filet de sécurité pour protéger les intérêts des petits agriculteurs et les pauvres dans les pays en développement. Et afin de réaliser la sécurité alimentaire, la sécurité des moyens de subsistance et le développement rural. J33, dirigé par l'Indonésie, est un groupe luttant pour la reconnaissance des droits des pays en développement pour être en mesure de fournir un soutien aux petits agriculteurs et les pauvres dans chaque pays. Le gouvernement indonésien estime jusqu'à présent le niveau de bien-être des petits agriculteurs et les pauvres dans des pays en développement sont de plus en plus marginalisés parce qu'il a affecté le niveau élevé de la volatilité des prix des produits agricoles mondiaux en raison de l'ouverture des marchés. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie et l'Allemagne ont signé un protocole d'accord pour la coopération dans le domaine du transport maritime. Ce protocole d'accord a été signé par le ministre indonésien de coordination des affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, et le vice-premier ministre de l'Allemagne, qui sert également le ministre allemand des affaires étrangères, Sigmar Gabriel, au bureau du ministère allemand des affaires étrangères, mercredi à Berlin. Dans une déclaration écrite reçue par Antara jeudi, il a déclaré que la signature du protocole d'accord était une mise en œuvre de la déclaration conjointe entre l'Indonésie et l'Allemagne dans la coopération globale tenue à Jakarta le 12 juillet 2012. Quelques points qui sont inclus à l'ordre du jour de la coopération sont entre autres la coopération stratégique maritime, la sécurité et la sauvegarde tâches de la mer ainsi que l'investissement des infrastructures maritimes. En plus de signer un protocole d'accord de la coopération dans les domaines maritimes, le ministre Luhut avait aussi dialogué avec le vice-premier ministre. Cette réunion est prévue à suivre par les deux visites réciproques du vice-premier ministre allemand Sigmar Gabriel et la visite du ministre allemand des Transports et des Infrastructures numérique, Alexander Dubrin. L'Association des entrepreneurs de l'huile de palme indonésienne, ou GAPKI, assure l'Indonésie continuera d'être le plus grand producteur de l'huile de palme dans le monde. Le président de GAPKI, M. Joko Supriyono, a déclaré jeudi que toute la campagne noire à l'intérieur et à l'extérieur du pays aucun effet sur la demande mondiale de l'huile de palme en Indonésie. Il a souligné que la demande mondiale augmentera. En avril 2017, la demande d'huile de palme ou CPO et ses dérivés de l'Europe a augmenté d'environ 8%. En mars 2017, environ 446 1,92 000 tonnes. Un mois plus tard, est devenu 482,95 000 tonnes. Les demandes d'autres pays augmentent également, à l'exception de la Chine, qui sont en baisse en raison du programme d'élevage, en sorte qu'on importe beaucoup de soja pour l'alimentation animale et obtenir l'huile du processus de broyage de soja. GAPKI est engagé à soutenir le programme d'amélioration de la productivité des agriculteurs pour encourager les membres à élargir le partenariat de coopération entre les entreprises et les plantations du peuple. Pour marquer 50 ans de l'ASEAN comme une association de 10 pays d'Asie du Sud-Est en 2017, l'Indonésie a commencé avec différentes séries de programmes. L'un entre eux est le projet de tenir camp de jeunes interreligieux par le ministre des Affaires étrangères, à laquelle participeront des représentants de 10 États membres et les pays des partenaires de dialogue de l'ASEAN, qui a eu lieu à Jombang, dans la province de Java-Est. Le directeur adjoint pour la coopération de développement social de la Direction générale de la coopération ASEAN, le ministère des Affaires étrangères, M. Isman Pasha, à Jombang, a déclaré que la valeur de tolérance élevée interreligieuse et l'harmonie de la société de Jombang devient la raison principale du choix de Jombang comme l'hôte de la CAM de jeunes interconventionnels ASEAN qui aura lieu en octobre 2017. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à voyager à Bandung, Java West. Si un jour vous visitez Bandung, la capitale de la province de Java West, nous vous suggérons de visiter quelques attractions différentes qui ont été un sujet de conversation des Indonésiens dans le média social Instagram. Son nom est Tebing Keraton, aussi appelé Tebing Instagram. Ce lieu touristique offre une vue spectaculaire à partir d'une hauteur. On y voit non seulement Bandung, mais aussi une forêt spectaculaire dans une brume épaisse. Ce n'est pas difficile d'aller à Tebing Keraton. Du centre-ville de Bandung, vous prenez la direction de Dago Pakar et puis vous allez directement au parc Insinyur Haji Juanda. Après la porte du parc Insinyur Haji Juanda, tournez à droite. Vous passerez les grandes maisons et des villages. Vous arriverez à une stalle avec un grand panneau d'affichage avec le mot Warung Bandrek. Le voyage n'a pas été achevé. Votre véhicule passera la route en montée et le chemin Recolio jusqu'au dernier poste et alors vous serez arrivé à Tebing Keraton. Là-bas, vous pouvez vous garer le vélo ou bien la voiture et pour atteindre cette falaise, vous devez marcher environ 5 minutes. Tebing Keraton est situé dans la Taman Hutan Raya Dago ou le parc forestier de Dago. À partir du haut de cette falaise, vous pouvez voir le paysage verdoyant du parc forestier de Dago. Le paysage sera plus beau si vous venez avant le lever du soleil, soit environ à 6 heures du matin. À ce moment-là, vous pouvez profiter de l'atmosphère de la ville de Bandung qui est encore recouverte d'un épais brouillard. Toute la beauté du paysage naturel est en effet plus appréciée si vous la capturez avec votre appareil photo. Vous devez préparer un appareil photo, une vase où vous réchauffez de la fraîcheur de l'air, des boissons et de l'essence pour votre véhicule. Si vous n'êtes pas toujours sûr de l'état de la route pour y arriver, ne soyez pas timide pour demander. En outre, vous êtes également invité à utiliser de préférence une moto parce que la route n'est pas trop bonne. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Serviteur, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le calendrier Howard de tribu Sasak Lombok, Nusa Tenggara West. Serviteur, l'une des découvertes dans la civilisation humaine qui aide grandement la vie de la société est le système du calendrier. Outre le calendrier Masehi et le calendrier Égir, il existe de nombreux systèmes de calendrier locaux en Indonésie qui se développent à la suite de la culture locale, comme le calendrier Rowot de la tribu Sasak Nusa Tenggara West. Musique. La tribu Sasak dans la province de l'Ouest de Nusa Tenggara a une culture sacrée et unique. Dans la vie quotidienne jusqu'à présent, les gens de la tribu Sasak appliquent toujours la tradition de leurs ancêtres. L'une des traditions est la connaissance de l'époque. Cette connaissance est le résultat d'observations envers le groupe d'étoiles composant de 7 étoiles. Il est situé au-dessous, à gauche de la personne qui regarde le groupe d'étoiles. Ce groupe de l'étoile est connu par les Angusasa comme étoile de Rowok. L'émergence de l'étoile Rowok dans la direction du nord-est est alors utilisée comme référence au début du système du calendrier de Sasak ou du calendrier Rowok. Le calendrier de Rowok Sasak est l'un des patrimoines culturels de Sasak qui prouve que les ancêtres de Sasak étaient des personnes nobles et hautes, habituellement dominées par les leaders traditionnels. Cette fois, les instructions sont utilisées pour indiquer un bon moment pour les agriculteurs de planifier et de récolter. En plus de trouver un bon moment pour planter et récolter, le calendrier Rowok est également utilisé comme référence ou guide pour trouver le meilleur moment pour organiser des cérémonies traditionnelles, la division des saisons, la direction des dragons et wuku ou influence de position des constellations contre les événements qui se produisent sur la Terre. Cela indique que le calendrier de l'étoile Rowok a une valeur spirituelle pour les personnes de Sasak. Jusqu'à présent, le calcul du temps basé sur l'étoile Rowok est encore utilisé par certaines tribus Sasak, l'une des régions dont les gens utilisent toujours le système de chronométrage avec l'étoile de Rowok et la communauté Bayan de Lombok du Nord. Serviteurs, c'était l'Inglise en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme chaque semaine, nous présentons la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et également présenter des chansons de Dangdut. Dans cette édition, nous avons déjà sélectionné des chansons de Dangdut chantées par Titi Paramida. Bon, chers amis, on va écouter la première chanson intitulée « Bulan Merindu ». Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter notre programme Courrier et musique. Et c'était la première chanson de Dangdut intitulée Wulan Merindu chantée par Titi Paramida. Bon, maintenant, je vais saluer à ceux qui nous ont écrit et envoyé des rapports d'écoute. Meilleure salutation à notre ami Joël Lins à la France. Il a écrit bonjour. Je vous écoute depuis la France sur 9026 kHz. Je voulais vous adresser un rapport d'écoute, mais impossible d'accéder à votre formulaire. Et toutes mes amitiés, cordialement, Joël Lins. Merci à vous pour votre email. Merci et restez toujours en contact avec nous. Comment va notre cher ami du Brésil, José Socorro Suero Maranhão, précisément dans le nord-est du Brésil? Merci pour le rapport d'écoute envoyé. Salut et merci à notre auditeur de lundi, Siddhartha Bhattacharjee, à Medinipur. Merci à vous pour le rapport d'écoute. Et chers amis, écoutons maintenant la deuxième chanson intitulée RT5 RW3, chantée par Titi Paramida. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.